France Inter. Au centre, on écrit beau, on écrit droit, on écrit bien, enfin, c'est ce qu'on croit. Ah, on met des points sur les i, au nom des ronds, c'est plus joli. La marge, c'est pour les ratures, pour les fêlures, pour les bavures, c'est pour la croix dans le tableau et c'est la tache dans le décor. On raye, on barre, encore, encore. En marge, il y a ce qu'on n'est pas, pas hétéro, pas blanc, pas beau. Au centre, la Vierge effarouchée. Et vire-moi donc toutes ces traînées transgressives et têtes brûlées, inconséquentes, impertinentes, inconscientes ou pire, inconstantes. C'est le coup de canif dans le conte de fées. Allez, allez, on les efface, surtout qu'elles ne laissent aucune trace. Au centre, horizon dégagé, c'est clair, c'est net, c'est bien rangé. Et je te le dis, par A plus B, que c'est bon, la binarité. Hé, hey, les gars, la vérité, c'est un peu plus complexe que ça.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Vous inventez carrément des maladies, docteur. C'est très grave. Le trou de la sécurité sociale, en fait, c'est vous. Au moins, un petit pet de travers, allez, paf, un arrêt de travail. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je monte sur scène, docteur, 20 ans. Et je ne me suis jamais arrêtée. Et pourtant, j'en ai pris plein la gueule. Mais je me suis toujours relevée, seule. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis une machine. Moi, je suis un putain de tank, ouais. Moi, je suis un tank. T'as pas mal, Rocky, t'as pas mal. Et j'en aime beaucoup, docteur. Vous savez pourquoi? Parce que je suis sympathique. Parce que je suis espiègle. Parce que je suis rigolote. Parce que je suis une bulle de bonne humeur. Et parce que je suis fatiguée.
Bonsoir, bienvenue Constance.
Bonsoir.
Extrait de votre dernier et sixième selon scène, Inconstance. Joli pied de nez à votre prénom, c'est une façon d'affirmer une nouvelle façon d'être, une nouvelle identité.
C'est surtout une manière de relever une grosse, grosse blague de la vie. Parce que ouais. Comme je suis diagnostiquée bipolaire depuis peu et que je m'appelle Constance depuis toujours, je me dis qu'il y avait une farce qui a pris du temps, mais elle est géniale.
Vous incarnez sur une seule et même scène une kyrielle de personnages, comme vous l'avez toujours fait, avec une joie, une virtuosité de dingue. Sauf que là, plus de changement de costume. Vous êtes vêtue d'une sobre robe noire et d'une paire de boots noires aussi. Pourquoi ce choix ?
Alors, j'ai voulu tout simplifier pour que ce soit plus direct et pour me mettre plus de liberté, en fait. Et j'ai écrit un spectacle que je voulais écrire depuis longtemps. Je voulais que ce soit comme un film, que ce soit des chants contre chants avec des personnages comme ça qui s'enchaînent. Et je suis contente d'avoir réussi à faire ça.
Est-ce qu'il y a une plus grande mise à nu aussi dans le fait de ne pas utiliser l'artifice du costume avec toute la joie que ça suppose, parce qu'on le voyait dans vos précédents spectacles, il y a un vrai plaisir à se déguiser, avec beaucoup de guillemets, mais qui rejoint le plaisir d'enfant qu'on peut avoir à se raconter des histoires. Là, cette sobriété, je me suis demandé si ça allait de pair aussi avec une forme de rapport plus, vous disiez, plus direct, plus intime aussi entre vous, le texte, le public.
Oui, c'est plus intime, mais en même temps, ça permet de raconter plus de choses. Puisque le costume paraît neutre, mais en fait, il raconte aussi. C'est une robe qui est bleu marine, on dirait qu'elle est noire, mais elle est bleu marine. Effectivement, les boots sont noirs. Sauf qu'il y a un problème avec le détail.
Pas du tout.
Et en fait, elle fait autant petite robe de scène qu'elle peut faire aussi blouse de soignant, qu'elle peut faire aussi chemise de nuit de quelqu'un qui est hospitalisé. Et ça marche aussi pour faire quelqu'un de l'extérieur, ça peut être masculin, ça peut être féminin. Donc finalement, je me suis autorisée beaucoup plus de choses en limitant le tissu.
Ça faisait 3 ans que vous n'étiez plus revenu dans la lumière et vous voilà dans ce studio sous 2 projecteurs et devant ce miroir. Prenez-le, s'il vous plaît, Constance. Prenez surtout le temps de vous regarder. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire de nous? Comment est-ce que vous vous décririez?
J'ai des grands yeux bleus, tout écarquillés, parce que je regarde le monde. J'essaie de mettre des robes de couleur parce que c'est quand même beaucoup plus joyeux. Et voilà. Non, en fait, je m'aime bien, mais je m'adore pas. J'aime bien ressentir les choses de l'intérieur. J'aime bien me trouver belle dedans de moi. Voilà. Après, j'essaie d'arranger l'extérieur, mais je crois que j'ai plus de charme que de beauté. Et je crois que c'est parce que je suis bien à l'intérieur maintenant.
Sur l'affiche du spectacle, on vous voit lumineuse, sourire éclatant, en robe de tulle rose, pétant, courant dans les couloirs d'un hôpital psychiatrique. Parce que même là, sans jamais rien céder à la vérité de ce que vous avez traversé, de ce que traversent toutes celles et tous ceux qui connaissent des des coups de moins bien, vous avez réussi à mettre de la joie. Et alors là, chapeau bas.
France Inter, En Marge.
J'ai plaqué mon frère comme un saligo, mon copain le frère, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi. Naturellement les flûtes.
Constance, vous êtes née le 3 août 1985, pas très loin de la forêt de Compiègne, dans une écurie donc.
Oui, oui, il y avait un âne, il y avait une vache, et puis c'est ma ça. Mère avait un grand, grand
voile bleu.
Voile bleu.
Tout ouais, à fait. Ouais.
Mon père était cocu.
Première GPA de l'histoire, quand même. Vous avez grandi donc au milieu des chevaux, par contre, ça c'est vrai.
Oui. Pourquoi? Alors j'ai pas grandi concrètement au milieu des chevaux parce que c'est dangereux.
Oui. C'est pas faux.
Il y avait des adultes autour. Je dormais pas entre les sabots. Mais oui, je viens d'une famille de cavaliers. J'avais un de mon grand-père qui était instructeur d'équitation, qui avait une école d'équitation. J'ai deux de mes tantes qui ont eu des écoles d'équitation aussi. Ma mère était cavalière. Voilà, je et viens ça, vraiment ça du dire... côté maternel des chevaux.
Ça veut dire quoi en termes de rythme de vie ou de valeurs, de références, d'éducation?
Ben, ça veut dire qu'on se rend compte de ce qu'il y a derrière les chevaux, c'est-à-dire travailler l'hiver, beaucoup de difficultés, des fois des décisions à prendre qui sont compliquées, gérer un cercle hippique, gérer autant un palefrenier que des gens de la haute qui viennent monter que le week-end, des gens de la chasse à cour, en même temps des gens très simples qui vont saigner pour avoir leur petit cheval à eux. En fait, c'est l'humanité tout entière qui est autour des chevaux.
Un bon poste d'observation, quoi.
Oui, c'était bien pour commencer.
L'enfance à l'odeur du cuir, celle des selles de cheval, et le goût de la quiche lorraine, celle de votre mère, Odile, mère poule, toujours inquiète pour ses petits, même quand ils sont grands. Votre père Jean-Charles est chef de parc à l'Office national des forêts, enfin, en théorie. Parce qu'en pratique, dites-vous, il a toujours été un adulte enfant qui n'a jamais rien fait d'autre que ce qu'il voulait. C'est-à-dire plutôt rêveur ou plutôt punk, votre père?
Oh bah, tout en même temps. Mon père en a rien à foutre de ce qu'on lui dit, en fait. Il fait tout comme il veut et il a raison. Il a toujours été très heureux. Franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour mon père parce que je ne l'ai jamais vu dire des choses négatives sur la vie.
C'est vrai?
Ouais, jamais.
Et jamais de choses convenues non plus, j'imagine?
Non, non, il est très atypique et encore maintenant, il paraît très observateur et encore maintenant, il sort des expressions de ce qu'il a fait plein de boulot et quand il bossait à l'usine, il a retenu plein d'expressions. Et moi, je me marre à chaque fois, donc il fait exprès d'en retrouver. Mais oui, avec mon père, par exemple, on se fait pas de câlins, on se dit pas je t'aime ni rien, mais on se fait des blagues et on adore voir l'autre rire.
Et avec votre mère?
Avec maman, maintenant elle est redevenue plus rigolote parce qu'elle a fait beaucoup de dépression et c'était compliqué. Mais maintenant, ça y est, elle refait des blagues aussi, donc voilà, on se marre bien. Maintenant, c'est mieux.
Chez les Pitards, on fait un enfant tous les 4 ans, c'est comme ça. Et donc, vous avez deux grands frères au-dessus de vous. Ça donne envie de ruer dans les brancards, ça? Un peu.
D'avoir des grands frères, oui, ouais. Parce qu'en fait, je voulais faire tout comme eux, j'avais pas le droit, mais je faisais quand même. Par exemple, j'avais un de mes frères avec ses copains, leur grande blague, c'était quand quelqu'un passait en voiture, c'était de baisser leur froc et montrer leur cul. C'est des trucs d'adolescent. Et moi, la première fois que j'ai fait ça, mon frère était outré. Il m'a dit, on monte pas son cul quand on est une fille et tout. J'ai dit, ah mais pourquoi c'est pas rigolo, mon cul à moi?
Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris très tôt, du coup, que comme fille, on allait attendre un certain nombre de choses de vous, qu'on n'attendait pas de vos frères?
Alors, j'ai compris rapidement que ça n'allait pas être accepté, ça n'allait pas être apprécié, mais je l'ai fait.
Okay.
J'ai eu le souvenir de ma mère qui m'avait offert une robe jacadie. On n'avait pas énormément de sous, mais elle a vraiment cassé sa tirelire pour m'offrir une robe jacadie. Et je l'ai déchirée en montant à un arbre. Et ben, c'est pas du tout pratique une robe pour monter dans un arbre.
On est bien d'accord.
Ils sont nuls chez jacadie.
Vous, toute petite, vous trimballez partout avec votre lapine en peluche, rose et blanche, avec ses deux longues... Ah non, elle n'a plus qu'une oreille, l'autre a été beaucoup trop mordillée. Vous pleurez, petite, beaucoup. C'est la poésie qui vous console. Alors ça, oui, ça vous plonge dans un autre monde, un monde où vous croisez des princesses, des sirènes et des homards qui chantent.
Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure. Dans l'océan parfumé, on fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, sous l'océan, doudou c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan.
Henri Salvador, dans cette chanson culte de la petite sirène version vintage, quel effet vous faisait-elle, cette créature marine ?
Ah bah, déjà, ça me donnait envie de manger des moules. c'est pas une... C'est vraiment
bien
des
sûr.
Moules, voilà.
Oui,
des fruits
vrais.
De mer.
Oui.
Enfin,
les autres sont vrais aussi. Bref, on s'enfonce, Constance, remontons à la surface, voilà. S'il vous plaît, la petite sirène.
Je me noie. La petite sirène, bah, j'adorais, parce que voilà, c'est une comédie musicale en même temps, et puis c'est une petite femme poisson qui fait tout ce qu'elle veut, et puis elle rêve d'aller quelque part, on lui dit qu'il ne faut pas aller, du coup elle y va. C'est moi.
Vous rêviez,
avec une queue, pardon.
Vous rêviez, vous nous avez dit en préparant cette émission d'être comédienne et libre. Le théâtre, c'était pour ça, c'était pour échapper à ce monde-là, à quelque chose de vous-même. C'était comme ça que vous représentiez les choses ?
En fait, j'ai toujours voulu être comédienne, et quand on me demandait pourquoi, c'était pas pour être connue, pas pour avoir de l'argent, pas pour avoir du succès, c'était pour être heureuse. Je disais toujours, mais moi je veux être libre, je veux être heureuse, c'est tout ce qui m'importe. Donc très très jeune, j'avais déjà ce discours-là.
Et pourquoi le fait d'être comédienne vous l'assurait ?
Parce que, en fait, quand on est sur scène, on peut être qui on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. C'est magnifique, en fait, c'est une ouverture vers l'absolu, vers l'infini. Il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas besoin de faire des grandes études, il n'y a pas besoin de choses compliquées. Il faut une scène, il faut de la lumière, il faut quelques bouts de tissu, il faut raconter une histoire, des gens qui viennent écouter. C'est hyper simple, en même temps c'est génial.
Alors ça, c'était pour la face A. La face B, c'était plutôt ça. Original du film Shining. Vous étiez fan de films d'horreur ?
Pas du tout. Je suis terrorisée par les films d'horreur. Mais terrorisée. Je ne peux pas aller au cinéma voir un film d'horreur. Je me cache les yeux, je me bouche les oreilles. Ce qu'il faut quatre mains. Donc c'est très compliqué, je dois choisir. Le son fait flipper, l'image fait flipper. Donc je regarde par terre, je me bouche les oreilles. Je paye une place pour rien. Non, vraiment, je suis allée deux fois voir des films d'horreur. Ça me tétanise. Et Shining, c'était chez mes parents. Et ça faisait partie des films que j'avais pas le droit de voir. Avec Le silence des agneaux. Évidemment, mercredi après-midi, personne à la maison, je mets Shining. J'ai jamais eu, parce que j'avais fermé les volets et tout le bordel. Mais je ne pouvais plus bouger du fauteuil tellement j'avais peur.
Quel enfer.
Et parce qu'en plus, ce film fait peur alors qu'on ne voit presque rien.
Il y a aussi, dans votre famille ou chez vous, à l'époque, quelque chose de plus sombre, je crois, de plus mélancolique, peut-être ?
Oui, il y a de la dépression qui est latente, mais dont on ne parle pas. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Ouais.
Chez qui ? Chez votre mère, ça vous
maman,
l'avez dit.
Maman a toujours été très anxieuse, et puis il y a beaucoup de sujets de tension autour de ma grand-mère maternelle, mais j'apprendrai que plus tard pourquoi.
Et pourquoi ?
Parce qu'elle était bipolaire aussi, enfin on disait maniaco-dépressive à l'époque, et en fait elle a fait de la dépression toute sa vie, elle était allée en hôpital psychiatrique. C'est les périodes où il n'y avait que le lithium pour stabiliser, mais il ne donnait pas tout le temps, donc elle avait des bouffées délirantes, c'était très compliqué. Et elle s'est suicidée, et moi j'avais 2 ans et demi, mes frères donc à chaque fois 4 ans et 4 ans de plus, et en fait j'étais la dernière à être au courant parce que j'étais trop petite à l'époque, et on m'a dit le cœur de ta grand-mère s'est arrêté, du coup j'ai cru qu'elle était cardiaque. Et un jour je discutais avec un médecin qui me demande s'il y a des problèmes cardiaques dans la famille. Je dis oui, j'avais une grand-mère qui était cardiaque. Et après je me parle à ma mère qui me dit non, elle n'était pas cardiaque. J'ai dit son cœur s'est arrêté, et elle m'a expliqué. Il y a toujours quelque chose de très étonnant autour du suicide. On veut toujours savoir comment les gens se sont suicidés. Mais on n'ose pas poser la question. Il y a ce truc aussi de « un tel est mort ». Mais il est mort de quoi ? Alors, qu'est-ce que ça change ? Et je ne sais pas pourquoi il y a cette curiosité-là.
Peut-être qu'on a envie de se figurer les derniers instants. Peut-être que...
C'est très, en fait, c'est très impudique, parce que, c'est bizarre. Ben, moi aussi, j'ai envie de demander pourquoi, du coup, mais c'est terrible.
En fait. En tout cas, il y avait chez vous, un peu comme dans Shining, cette angoisse palpable et en même temps, on ne voit pas grand-chose. Il y avait cette noirceur qui était là, mais dont on ne parlait pas, quoi.
Ça plane quand même, c'est dans l'air.
Oui, il y avait quelque chose. Et puis moi, j'étais une petite fille très mélancolique, très sensible. Ouais. Et j'avais beaucoup de mal à trouver ma place à l'école, dans la famille, avec moi-même.
C'est vrai.
Ouais, les seuls moments où j'étais bien, c'est quand j'étais avec des animaux. Mmh. Ah ouais, je suis très heureuse
avec
des animaux. Les chevaux, les chats, les chiens, les vaches, les poules, tous les animaux, en fait, j'ai les codes. J'ai vraiment les codes.
Ouais. Et vous aviez le sentiment de pas avoir les codes, d'avoir moins les codes de l'humain, quoi.
Ah, mais je les ai découverts il y a pas longtemps. Et encore, des fois, c'est compliqué.
Alors, la suite immédiate est pas noire. Elle est plutôt rouge, rouge comme le sang qui monte aux joues quand le désir s'éveille, quand il nous coule dans les veines, quand il nous fait battre le cœur. Et écoutez du Ben Harper. Oh, baby, now let's get down tonight. I'm hot just like your oven. Well, I need your loving. And baby, I can't hold it much longer. No, it's getting stronger and stronger. And when I get this feeling, I need sexual healing. Sexual healing.
Sexual Healing, une de vos chansons d'adolescence. Constance, vous avez eu l'adolescence plutôt furieuse, plutôt joyeuse?
Ah, j'étais insupportable.
C'est vrai?
Ah ouais, ouais. Parce que je voulais pas être féminine, du coup je m'étais coupé les cheveux très courts, je faisais les teintures, je voulais coudre mes vêtements mais je ne savais pas coudre. Je m'étais dessiné un œil au milieu du front, comme ça quand on essayait de m'embêter je disais que je piquais l'âme des gens. J'aurais vraiment pas voulu m'avoir comme fille à ce moment-là.
Et comme amie ou comme petite amie plus?
Alors les petites amies c'est venu vraiment très tard, okay. Parce que c'est normal, je leur faisais peur. Et les amis, moi j'étais du côté des invendus. Hein. J'étais avec les PD, les gros, j'étais genre
en marge.
Tout doux à l'école. Enfin voilà, on a eu notre groupe et on dérangeait les autres, mais ouais. Volontairement, on inventait des trucs pour les mettre mal à l'aise. Et c'était fascinant.
Comment est-ce que vous viviez le fait de grandir, de quitter l'enfance, de rentrer dans cette espèce de truc un peu flou qui vous emmènerait vers l'âge adulte, de voir votre corps changer?
Moi, j'ai adoré devenir adulte parce que je voulais être libre, je voulais faire ce que je voulais, donc ça, c'était vraiment arrangeant. J'ai souffert à l'école. J'étais pas mauvaise à l'école, mais je souffrais, je m'ennuyais. Je regardais par la fenêtre et je me disais, mais toutes ces minutes-là, elles sont pas à moi, et qui va me les rendre? Personne. Et donc,
Et sur le fait de devenir une femme, où vous disiez que vous coupiez les cheveux très courts parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de je veux pas devenir ça.
En fait, j'étais très très en colère quand j'avais 14-15 ans. Et quand j'ai eu 16 ans, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai eu des poils avant des nichons. Donc c'est déjà, ça rend en colère.
C'est compliqué.
Voilà, c'est pas terrible. Pour choper, c'est nul. Surtout que c'était une époque où on n'avait pas le droit trop de se raser ni rien. Donc c'est très intime ce que je dis. Je regrette d'avoir dit ça. J'avais des poils sous les bras, bref, et pas de seins. C'était magnifique. Ben maintenant, on a le droit. Mais à l'époque, c'était... Mm-hmm. Voilà, je m'enfonce. Et...
Et je regarde glisser. J'attends
j'en
juste la suite.
J'en ai marre de moi. Achevez-moi.
Ah non, ah non, non. Ah bah non, moi j'en ai pas marre du tout. Donc s'il vous plaît, continuez.
Non, et puis après, j'ai eu des seins, j'ai eu un corps que j'ai découvert, en fait, et je me suis mis à l'aimer. Mais en même temps, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais c'était vachement plus simple de parler avec les garçons quand on avait des seins.
Ouais. Ah oui.
Vous écoutez beaucoup plus.
Moi qui n'en ai toujours pas, par exemple, je n'arrive pas.
De toute façon, ce qui vous tient, ce qui vous porte, c'est le théâtre, l'envie d'y aller, celle de foncer, celle de brûler les planches, la vie, parler debout, tout. Vous entrez donc au Conservatoire de Lille juste après le bac, assez vite. Là encore, vous vous ennuyez et alors vous repartez. Il vous faut plus grand, il vous faut Paris. En tête, vous avez Jacqueline Maillan, vous avez Agnès Jaoui. Faire rire des salles entières, vous aussi, vous en avez très très envie. Vous commencez, premier salaire, premier appartement. Le monde n'attend que moi, vous vous dites ça, mais les gens sont étranges parfois. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no
is your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right,
Les Doors, Jim Morrison, la voix, la nonchalance, l'insolence, miam. Cette chanson que vous avez choisie, Constance, pas n'importe laquelle, hein, People Are Strange. Quand vous avez arrivé à Paris, vous avez la vingtaine, ce sentiment d'étrangeté, vous l'avez encore, l'impression de ne pas avoir les codes encore?
Ah non, j'ai rien compris quand je suis arrivée à Paris.
C'est vrai?
Bah oui, parce que moi j'arrivais de la campagne, limite je suis arrivée dans le métro, je disais bonjour.
Et vous souriez quoi, par le truc de dingue.
J'ai bonjour messieurs dames, ça va? Bonjour. Boulangère, tout ça, personne ne me parle. Je me dis bon, je sais pas, quelqu'un est mort. Pas beaucoup de gens depuis longtemps. Mais non, j'ai mis du temps et je comprenais pas pourquoi je me faisais emmerder tout le temps, mais parce qu'en fait j'avais les yeux levés et j'observais. Mmh. Donc du coup c'est un signe de disponibilité et les gens rentrer. Alors c'est génial parce qu'il y avait des trucs chouettes, mais il y avait des trucs complètement fous. Et je me disais, mais je suis un aimant à fou. Mais c'est juste parce qu'en fait, j'ai mes petites lucarnes des yeux qui sont ouvertes comme ça. Donc il voit de la lumière, il rentre. Puis je me dis, non, mais pas du tout, c'est pas du tout. Voilà.
Vous passez vos premiers castings, ça ne marche pas vraiment au départ. Vous tentez les écoles de théâtre privées, c'est pas ça non plus. Mais quand vous ouvrez la porte des cafés-théâtres, alors là, oui, là, vous êtes au bon endroit, tellement que vous écrivez, que vous jouez, que vous enchaînez. 2008, premier seul en scène, Je suis une princesse bordel. 2012, Les mères de famille se cachent pour mourir. Un sacré sens du titre, hein, la Constance. Et puis un jour, voilà Ruquier.
France Inter, En marge. Julia Foyce.
On ne demande qu'à en rire, générique. En tout, vous passerez 51 fois dans l'émission d'humour de Laurent Ruquier sur France 2. Au départ, vous y allez pourquoi ?
Parce qu'en fait, alors au départ, je voulais pas y aller. J'ai dit non deux fois. Mmh. Et après, j'ai des copains qui étaient là-bas qui m'ont dit « Mais viens, viens, il n'y a pas de filles, c'est quand même chouette, on peut faire ce qu'on veut, c'est carte blanche. » Et j'y suis allée en me disant, mais comme à chaque fois dans ma vie, en me disant « Qu'est-ce que je vais foutre là-bas ? De toute façon, je suis nulle, je ne vais pas y arriver. » Et puis, je suis restée 2 ans.
et 2 ans après vos débuts, oui, vous arrêtez ce en plein milieu d'un sketch.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'était pas drôle. C'était pas drôle, j'étais fatiguée.
Je crois que vous aviez prévu, hein, le sketch était un défilé haute couture au Père Lachaise, c'est ça ?
Oui.
Et ouais, le public ne rit pas, le jury non plus.
Bah, y a une ambiance de mort. Okay.
Et vous arrêtez quoi ?
Oui, parce qu'en fait, je passe un moment épouvantable, tout le monde passe un moment épouvantable, et je me suis dit, bah, va falloir arrêter, parce que c'est triste pour tout le monde. Et je crois que Laurent Ruquier m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Constance ? Et je lui dis, bah, écoutez, c'est pas drôle, voilà, c'est pas drôle. Voilà.
Après, vous le dites, c'est un moment où vous commenciez à plus aller si bien que ça. Ça a joué
mais,
aussi.
En fait, j'ai toujours eu des cycles où j'allais pas bien, mais là, en fait, ça a été exacerbé puisqu'il y avait la télé, il y avait la pression, il y avait plein de choses qui étaient effervescentes et j'avais plus de place pour réfléchir et du coup, c'était que... En fait, le problème de la télé, quand on commence, c'est qu'on a l'impression que le monde tourne autour de la télé, alors qu'en fait, la Terre tourne sans la télé, sans problème. Et j'ai commencé en me disant, je vais mettre la télé au service de la scène, et au bout d'un moment, c'est devenu l'inverse. C'était c'était vraiment la scène au service de la télé, et du coup, ça m'a fait souffrir, parce que mon métier principal, c'est la scène. Et puis, il y a un système qui est particulier.
Et puis, la pression à l'audience.
Non, à un moment donné, j'ai perdu pied.
2015, troisième spectacle, Partout sentimental, hein. Voilà, quand on se parlait de votre don pour les titres, encore une fois. Cela dit, le spectacle marche moins bien que les autres. Vous n'avez pas forcément les bons producteurs. Vous tentez l'autoproduction, mais c'est une charge de travail colossale. Et vous vous effondrez sur scène. Avec le recul, c'est un premier signal qu'il faut arrêter, se reposer.
C'est pas un signal, en fait. C'est y a tout qui clignote. Il y a tout qui clignote, mais moi je ne suis pas prête à clignoter. Les gens autour de moi ne sont pas prêts à me voir clignoter.
Il y a un médecin qui vous parle de burn-out et de dépression.
Oui, une généraliste que je trouve complètement conne, parce qu'elle me dit que c'est un burn-out et qu'il faudrait que je commence à me soigner pour ma dépression. Et je la trouve vraiment insupportable, en fait.
Et pourquoi vous ne l'écoutez pas ?
Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie, parce que ça fait pas partie de ce que j'ai prévu. En fait, la dépression, c'est pour les gens faibles. Les gens qui s'écroulent sont les gens qui ne sont pas courageux. Moi, j'ai toujours vécu. Voilà, on tombe de cheval, on remonte. Et on est de plus en plus fort derrière. Sauf que moi, je me prenais pour un tank. Et puis, au bout d'un moment, même les tanks, ils sont cassés.
Alors, hop, on se secoue et puis on y retourne. C'est alors qu'un certain Alex Vizorek, je crois, vous appelle et vous propose une carte blanche dans l'émission d'une Charline Van Honecker.
Oui.
Je sais pas si ça vous parle. Et sa bande, ici même, à France Inter, par Jupiter. Parlons balcon, parlons nichon, c'est le titre de votre chronique. Et le 27 août 2018, vous y faites votre première.
France Inter, Charline Van Honecker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
C'est quoi qui a merdé ? Je veux dire, qui a commencé à dire que le corps c'était caca, que la sexualité c'était pas bien ? La religion, les politiques ? Moi je pense que c'est les vendeurs du tissu. Mais faut qu'on se réveille, putain, je veux dire, on essaie de nous formater de la chatte au téton. Faut leur faire la nique à tous ces puritains moralisateurs qui nous disent qu'on est pervers avec notre peau, qu'on aère, alors qu'eux ils ont juste un problème avec leur zizi. Venez. On n'a qu'à monter on va connaître les extrémistes et les réacs un grand coup de volupté.
C'est la rentrée.
On pourrait les... Pourquoi personne ne m'écoute ?
Si, mais vous avez raison. C'est sûr, t'écoutes.
Les topless. Content topless. J'ai une idée. On pourrait piéger tous les réacs et en fait, on aurait une technique, on les ferait glisser avec d'autres mouillettes et une fois à terre, on les étoufferait avec nos loches et comme ça, on dirait qu'ils auraient été tués par des gros bonnets. Ouais, c'est la chute. Voilà.
Elle est bien. Alors, pour ceux qui vivaient dans une yourte sans wifi en août 2018, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça rigole autour de vous ?
J'avais jamais réécouté ça. Je crois que j'ai jamais revu, jamais réécouté. Parce qu'en fait, je fais une chronique sur... je sais plus ce que c'est, genre le monde du topless ou un truc
en fait,
comme ça.
Non, c'est parce qu'une femme a allaité en public et que ça a fait scandale.
Oui. Du coup, je me dis, je vais faire un truc rigolo, je vais montrer mes nichons. Parce que je pensais que c'était vraiment c'est anecdotique, quoi.
Anecdotique, tu parles, hein, la vidéo va faire 4 millions de vues. Quel impact est-ce qu'elle aura sur vous ?
Maintenant, ça, je m'en fous, mais oui, ça m'a abîmée un peu à l'époque, parce que j'ai fait ça un peu naïvement, en me disant ça va faire rire les copains, et puis des dessins, il suffit d'aller au Louvre, il suffit d'aller sur Internet, enfin je veux dire, on en voit toutes les formes, on a tous vu des dessins. Et apparemment, il y a des gens, ça les a mis très en colère, tout ça les a un peu trop émoustillés, et ça a créé quelque chose qui m'a dépassée totalement.
Et vous parleriez, vous, de cyberharcèlement à l'époque ?
Ah oui, j'ai découvert vraiment ce qu'on appelle la tempête de merde, qui dure un petit moment, c'est ça. C'est très violent, c'est très très violent, parce que sur quelque chose que moi je faisais pas de manière malsaine, il y a des choses extrêmement malsaines qui sont arrivées, il y a des gens qui l'ont intellectualisé, il y a des gens qui s'en sont servis pour des trucs qui correspondaient pas. Je me suis retrouvée avec des menaces de mort, des milliers de bits envoyés en photo, c'est beaucoup, c'est beaucoup pour une blague.
Très salissant, très violent.
Oui, c'est pipi. Franchement, je veux dire, je me suis. Enfin, bref, voilà. J'ai juste montré mes seins.
Et comme les emmerdes en général, ça vole en escadrille, voici donc le Covid. Pandémie, confinement, panique et théâtre fermé pendant plusieurs mois. En 2021, c'est la reprise et vous pourriez souffler avec votre spectacle Peau pourrie. Vous partez en tournée, mais vous voilà dans une chambre d'hôtel à Besançon.
T'as eu un mois d'arrêt de travail, tu t'es bien reposé, maintenant tu vas bien, tu vas très bien. Fais comme sur ton application Petit Bambou. Masse-toi le plexus. Masse-toi le plexus. Putain, il est où mon plexus ? Oh, j'ai oublié mon plexus à la maison. Il est là. Tout va bien. Pense au livre de Christophe André, que tu as eu le temps de dévorer et qui t'ont permis de te connaître parfaitement en 7 jours. Mantra, fais de ta vie une réalité sur le chemin du rêve. Les embûches, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. C'est pas Christophe André, c'est Balou, ça n'a rien à voir. Allez, recentre-toi, tu as une grande chance de monter sur scène ce soir devant une salle pleine. Le public t'accorde une grande confiance, Constance, pour venir te voir ce soir. Ils ont réservé leur soirée, ils ont payé une nounou pour garder le petit Benjamin, parce que depuis sa naissance, ils ont beaucoup moins de temps pour eux deux en tant que couple. Alors attention, ne regrette pas du tout d'être devenu parent. Non, 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 ce petit Benjamin, c'est une merveille. Mais ce soir, ils ont besoin de temps pour eux. Voilà, une petite parenthèse. Et peut-être que si tu les fais rire, ils referont l'amour ce soir en rentrant chez eux. Peut-être que si tu les plantes, eh ben, ils vont divorcer à cause de toi. Oh là là, ils te détesteront, ils te maudiront, ta carrière sera terminée, les gens t'enverront plus jamais de photos de leur pénis. Oh non, 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 non. J'ai tout fait pour en arriver là, j'ai tout fait pour en arriver là, j'étouffe. Ah putain, j'étouffe, j'ai plus de poux. Oh, j'ai fait un AVC. Oh putain, je vais crever à l'ibis.
C'est le corps qui lâche, c'est la tête qui tourne, c'est le sol qui s'ouvre sous vos pieds. Votre compagnon et régisseur à l'époque vous conduit dès le lendemain chez un généraliste qui vous dit quoi cette fois ?
Que c'est un burn-out et qu'il faut, il faut s'arrêter.
Et là, vous l'entendez ?
Non, je dis j'ai pas le temps. Je m'excuse,
encore ?
Donnez-moi des médicaments, ouais. Je dois jouer ce soir, je dois jouer demain, je dois jouer après-demain, je dois jouer les 10 prochains mois, j'ai des dates. Je ne peux pas m'écrouler. Ben, je m'écroule en fait, c'est pas possible. Et puis le médecin me dit, mais qu'est-ce que vous voulez, je vous donne quoi comme médicament ? Je dis, je sais pas, des amphétamines, un truc de l'armée quoi, pour pas dormir. Mais elle me dit, mais moi je suis pas là pour donner ce genre de produit aux patients, je suis là pour soigner les gens. Et je lui dis, mais non, mais vous comprenez pas, là il y a une salle pleine qui m'attend. Elle me dit, mais madame, vous n'allez pas bien. Et ça va pas. Et ça s'arrête. Tout s'arrête.
Tout s'arrête, mais c'est une porte qui s'ouvre et qui n'est pas prête de se refermer parce que vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'errance médicale avant de savoir ce que vous avez exactement. Errance qui va durer combien de temps ? Un an et demi ? 2 ans ?
Ouais, disons 2 ans si on voit large.
Ouais.
Ouais, ouais. En fait, je me rends pas compte du temps que je vais devoir prendre. Mmh. Je me rends compte que il y a quelque chose qui ne va pas, que je suis très fatiguée, que je suis très angoissée, mais il va falloir que je trouve une solution rapide, parce que j'ai pas le temps. Mmh. Et puis je suis quelqu'un qui maîtrise tout, je me suis battue pour arriver là où j'en suis, j'en ai pris plein la gueule, et il est hors de question que je tombe. Mais je tombe.
Et de plus en plus fort et de plus en plus loin. On va poser le diagnostic de bipolarité au bout d'un an et demi, 2 ans. Ça va vous faire quoi ? En fait, il y a une forme de soulagement quand même, de se dire, ok, donc en fait, j'ai ça ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est à nouveau le sol qui s'ouvre sous vos pieds ?
Bah, de toute façon, le sol était ouvert et j'étais vraiment dans la lave depuis un petit moment. J'avais plus trop j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus beaucoup à parler. C'était très difficile. J'étais plus moi-même en fait. J'étais devenue un fantôme. Donc quand on me dit que je suis bipolaire, de toute façon, c'est cool, on met un mot dessus, mais pour moi, je suis finie. J'ai planté mon travail, j'ai planté ma vie, j'ai plus de sous. Je vis chez mes parents, je vois pas ce que je vais devenir.
Pourquoi
en fait,
est-ce que
je
vous êtes retournée chez vos parents ?
Parce que j'ai plus d'argent, parce que mon mec est parti, parce que j'ai plus de travail, et puis je peux plus être toute seule, je fais des tentatives de suicide, donc je peux plus rester toute seule, c'est dangereux. Mais en même temps, c'est extrêmement infantilisant. Mmh. Donc je ne vois pas pourquoi je dois encore vivre.
j'ai pas de but, je sais pas pourquoi je me lève le matin. Et puis je suis affreuse, j'ai grossi, j'ai l'œil mort, je ne vis plus, enfin je ne vois plus l'intérêt.
Vous faites des allers-retours entre chez vos parents et à l'hôpital psychiatrique, évidemment. Vous alternez ces phases-là avec des moments où tout est épuisant, tout est éreintant même. Lire, parler ou même écouter de la musique à l'époque, c'est impossible. Et en clinique, la seule chose qui vous fait du bien, c'est ça. Balade en forêt. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes en pleine nature à ce moment-là ?
Là, j'arrive à respirer, ce qui est difficile à l'époque, parce que j'étouffe beaucoup, j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'air dans les poumons. Donc là, voilà, je mets mon corps en mouvement, parce que quand on est hospitalisé, quand on n'est pas bien, on est fatigué, on n'arrive plus à se lever ni rien. Là, je marche. Et puis j'ai mes copains de la clinique, alors on se raconte des blagues, on se moque des gens qu'on voit autour, on se moque de nous-mêmes. Il y a un côté très colonie de vacances. Et du coup, en fait, on oublie qu'on est malade et on oublie qu'on va re-rentrer après la clinique et que ça sera fermé. Là, on est libre.
Le plus compliqué, c'est la clinique ou c'est l'extérieur ?
Les deux. Ouais. Quand vous êtes à la clinique, vous voulez sortir. Quand vous êtes à l'extérieur, vous voulez rentrer à la clinique. Vous êtes en sécurité nulle part, en fait. Vous étouffez.
Qu'est-ce qui vous aide à remonter la pente petit à petit ?
Le temps.
Ouais.
Le temps, la résilience.
Et puis, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est qu'entre le moment où on pose un diagnostic, surtout un diagnostic comme celui de bipolaire, et le moment où on trouve les bons traitements qui vont permettre de doser, d'équilibrer le cerveau, les humeurs, etc., les émotions, il se passe...
Des mois.
Ouais.
Il se passe des mois avec des moments où on est très très mal, avec des moments où on a des effets secondaires terribles, et puis il y a des moments où on est dans des phases maniaques, donc on a l'impression qu'on est redevenu surpuissant, et puis il y a d'autres moments où on est terriblement fatigué, déprimé, négatif. Et puis il y a les gens autour en fait, même si vous êtes enfermé, il y a les gens autour qui se font du souci, dont vous culpabilisez énormément. C'est dur, c'est vraiment difficile ces moments-là. Et puis il n'y a pas d'espoir. Moi, j'aurais eu besoin qu'on me parle du fait que ça allait bien se passer derrière, qu'il y avait tant de gens qui étaient bipolaires, qui étaient stabilisés et qui étaient heureux. J'aurais voulu qu'on me parle de toutes ces choses positives.
C'est pour ça que vous l'avez fait ce spectacle
ouais,
aussi.
Beaucoup. Ouais. J'ai écrit un spectacle que j'aurais eu besoin de voir quand j'allais mal. Et je voulais vraiment, vraiment dire qu'il y avait des solutions. Et je voulais aussi faire beaucoup de prévention autour du suicide parce que c'est extrêmement tabou. Alors qu'il faudrait justement en parler beaucoup plus. C'est un symptôme, c'est quelque chose de terrible. C'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment quelque chose... Parce que vous n'avez plus d'autre choix, en fait. Il y a des gens qui peuvent vous aider, et on peut... Des fois, c'est juste une phrase ou deux qui peuvent vous donner de l'espoir, vous donner un appui pour réussir à vous remettre en marche.
Alors, il y a quelque chose quand même qui vous a accroché à la vie, c'est l'écriture, parce que chacune de ces balades, de retour dans votre chambre, vous notez, et alors vous notez tout, hein, vos cauchemars, les plus sombres, vos pensées, les plus drôles aussi, parce que cette étrange créature, votre esprit facétieux, ne vous a jamais réellement quitté. C'est l'un des personnages de votre spectacle. Votre spectacle, lui, est issu de ces notes prises à l'HP. On vous a dit que c'était impossible, et ben, vous l'avez fait.
En marge. Sur France Inter.
Jésus est le meilleur ami. Celui.
Qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? C'est dans ta tête, Constance ? Mais oui, c'est dans ma tête, je comprends rien à ce qui se passe. Toi, allez dans les manouches, barrez-vous là ! Constance, elle a qu'un seul petit ami imaginaire et c'est le petit esprit facétieux, d'accord ? Dehors les Romanos ! Non mais !
J'aime bien quand t'es jaloux.
Dis, je suis un petit peu perdue. T'as combien de tentatives de suicide ?
4.
Ah ben quand ça veut pas, ça veut pas.
Pas très doué pour la mort donc, mais une vraie pulsion de vie, cet esprit facétieux, non ?
Oui.
C'est ça qui vous a raccroché, c'est une façon de pouvoir toujours se décaler.
Oui, et puis je pense qu'en fait, ma colère, c'était de la vie. et que depuis très longtemps j'étais très en colère et que j'étais très vivante, mais je ne me l'autorisais pas. Et je, en fait, souvent j'ai cru que c'était l'extérieur qui m'autorisait pas à être vivante, mais en fait c'était moi qui me, j'étais mon propre ennemi. Je me créais des ennemis autour, alors que au final, exister pour soi, ça fait un peu chier les autres au départ, puis après ils passent à autre chose.
Ça veut dire que la colère a disparu?
Oui, beaucoup. Ouais. Ah oui, ah oui, mais j'étais furieuse contre tout le temps. C'était fatigant. Ouais. Non, moi je suis apaisée maintenant, mais tout me fait beaucoup rire. Il n'y a rien de grave à part la mort. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de possibilités.
Quels sont les retours des spectateurs à la fin de... quand le rideau se baisse, quand vous les rencontrez, est-ce que vous écrivez, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Et j'ai des trucs magnifiques, vraiment. L'autre jour, j'ai un monsieur qui m'a fait dédicacer sa boîte d'antidépresseurs. Et qui a ça? Moi. Ou alors à la sortie d'un spectacle, j'avais quelqu'un qui, du côté de la sortie des artistes, avait écrit merci avec des petits bâtons qu'il avait trouvés par terre. Donc j'ai vraiment un public mi-psychopathe, mi-adorable. C'est génial.
Le public qu'on veut, quoi. Vous vous êtes donc remise debout, vous avez recommencé à écrire, l'horizon s'est dégagé, droit devant vous. Vous avancez, et Jacques Brel dans les écouteurs.
Rêver en impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour.
La quête, mais de quoi, Constance? La vôtre, ce serait quoi?
La quête de vie, ouais. La quête de connaître des choses, de vibrer, d'aimer, de découvrir, de goûter. C'est tout au maximum, quoi. C'est magnifique tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on peut faire.
Et dans cette quête, l'objet que vous emporteriez toujours avec vous, ce serait quoi?
Ah, c'est un petit caillou qu'on m'a offert. C'est
un cristal, non? De
roche. Je ne sais pas exactement, c'est un petit caillou rose. On m'a dit que c'était un caillou d'amour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas croyante, mais je crois au paradis des chiens.
Ok.
Voilà. Et quand on me fait des petits cadeaux porte-bonheur...
Vous les donnez à manger à vos chiens?
Non. Non, je crois, en fait, un petit peu en ce qu'on me dit. Okay. Et une fois, on m'a offert cette petite pierre et on m'a dit, tu vas attirer que de l'amour, comme ça. Et c'est pas faux. Alors peut-être c'est pas que la pierre, mais je préfère quand même la garder dans mon sac.
On sait jamais, au cas où. En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci Constance d'être passée nous voir. Gardez votre caillou bien précieusement avec vous. Constance, c'est le nom de votre spectacle que vous reprenez après plusieurs mois de tournée à Paris, au Théâtre de l'Atelier, du 5 au 20 juin, du jeudi au samedi à 19h. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.